Si c'est le cinéma, avec N'oubliez pas l'ouvreuse, et bien sûr sur Présence. Bonsoir, nous sommes heureux de vous retrouver, l'ouvreuse Louis-Marie, Laurent Martin. Bonsoir Laurent.
Bonsoir Louis-Marie, bonsoir Guillaume, bonsoir à tous.
Comment allez-vous Laurent ?
Ça va très bien, on se rapproche là. Hein.
Ça sent le sapin.
Oui, c'est... non peut-être pas, mais
ça sent le chocolat sapin chaud, décoré.
Le sapin chocolats, décoré.
Mais bien sûr,
les cadeaux,
bien sûr.
Les emballages.
Vous savez qu'on est ensemble jusqu'à 20h pour cette dernière de l'année 2025, puisque les mercredis suivants tombent chaque fois un réveillon. Soit Noël ou le Nouvel An, le réveillon de la Saint-Sylvestre, et l'ouvreuse sera en vacances à ce moment-là, et pour cause. Donc on est heureux de passer encore cette heure avec vous.
Exactement,
pour clore 2025. Et comme on va le faire en beauté, vous allez nous conseiller quelques films à voir à la télé, parce que malgré tout, il y en a quelques-uns qui ne sont pas inintéressants à découvrir depuis son canapé.
Exactement, c'est vrai qu'à Noël, il y a beaucoup de rediffs, mais bon, pourquoi pas. J'ai sélectionné 6 films pour le cinéma à la télévision cette semaine, et il y aura des conseils Blu-ray, des conseils lecture, enfin, la haute est pleine de cadeaux. Hein. Pour les idées dernière minute, si vous n'avez pas encore fait, on va vous donner quelques bonnes idées.
Mais voilà, vous êtes très fort. Les conseils de Lolo.
Les conseils de Lolo.
Voilà. Et il y a les conseils de Gogo aussi. Il est avec nous.
Guigui ou Gogo ?
Alors, c'est, je ne sais pas, j'hésitais entre Guigui et Gogo. Vous préférez quoi ? Guigui, c'est mieux.
Guigui, oui, c'est un fait. Oui,
ça correspond mieux à Guillaume.
Ça sonne mieux, oui.
C'est un peu Gogo Dancer.
Là. Voilà, c'est ça. C'est...
Mais ce que les auditeurs savent peu, c'est que notre spécialiste de la mécanographie du cinéma danse aussi sur la table de temps en temps.
J'ai d'autres activités cachées.
L'ouvreuse a du mal à le faire descendre. Ouais. Il fait bouger les micros. C'est pour ça.
C'est quand il a bu son café coca, oui, ça peut exciter.
Ah non, le plus fort, c'est quand il prend le thé à la menthe et le café. Il prend du coca. Guillaume Sidom.
Rhabillez-vous.
Bonsoir, rhabillez-vous.
Je suis rhabillé pour l'hiver, là.
Non, vous n'êtes pas rhabillé pour l'hiver. Dites-nous et faites-nous rêver.
Ah, ce soir, un film culte, une comédie romantique délicieuse en hommage à ce grand réalisateur tragiquement disparu ce dimanche. Oh. Et j'aurai un conseil de Blu-ray, coffret collector d'un film qui passe d'ailleurs sur France 4 demain soir.
Eh bien, dites-moi, messieurs, vous avez plein de choses à conseiller. Et nos auditeurs seront heureux d'entendre vos conseils. Notre homme de loi des séries dans son tribunal qui sera grand ouvert tout à l'heure, de quoi va-t-il nous gratifier ? Là, pour la dernière de l'année, c'est les flops de 2025.
Oui, ça sent le best-of un peu. Oui.
Il s'est aiguisé les dents, vous allez voir. Oui. Ça va saigner, les flops de 2025. Alors, il ne s'est pas cantonné qu'aux séries, il a aussi retapissé le 7e art et certains films qui sont sortis en 2025. Vous allez voir, vous n'allez pas regretter ce moment que vous passez avec Grégory Com, notre homme de loi des séries, donc. Et dans le panier de l'ouvreuse de ce soir, eh bien, il y aura bien sûr l'ouvreuse qui va scruter l'affiche de la semaine avec vous, Laurent Martin. Il y a quelques films, moi, mais il faut dire qu'il y en a un qui fait de l'ombre à beaucoup d'autres. Une espèce de marée bleue, de tsunami bleu.
Une sorte de schtroumpf.
Mais de grand schtroumpf. Très allongé. Bon, on en reparle tout à l'heure avec vous, Laurent, et l'ouvreuse. Et puis, il y aura les reprises sur le grand écran avant les vôtres, Laurent. Et puis, on conclura cette émission, comme d'habitude, par les coups de cœur. Bah, ce soir sera les coups de cœur de Noël, forcément. On a plein de films qu'on a envie que vous alliez voir de notre part, c'est sûr. Hein, allez au cinéma,
bien sûr,
en famille.
Oui.
Alors, on a des choses à vous conseiller et c'est pour la fin de l'émission. Vous le savez donc, nous sommes ensemble jusqu'à 20h. Bon début de soirée avec nous. vous a laissé un peu de temps pour vous installer, parce que là, le film qu'on va vous passer là maintenant tout de suite ce soir, c'est pas chaud, c'est brûlant, c'est très 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 hot. Vous y êtes ? Vous êtes prêts ? Hein ? Vous êtes prêts ? Bien, alors allons-y.
Mais qu'est-ce que tu racontes là ? Elle feindrait l'orgasme ?
C'est possible.
Tu rigoles.
Pourquoi ? Presque toutes les femmes font semblant de temps en temps.
On ne va jamais avec moi.
Qu'est-ce que t'en sais ?
Parce que je le sais.
Oh, c'est vrai. C'est vrai. J'oubliais. Il y a un mec.
Ça veut dire quoi, on peut savoir ?
Rien. Seulement, tous les mecs pensent jamais avec moi et presque toutes les femmes font semblant de temps en temps. Alors, fais le bilan.
Et tu crois que je ne le verrai pas ?
Non.
C'est pas rigolé. Ça va bien ?
Encore. C'est bon, oui. Oui. Oh. 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 Oh, mon Dieu. Oh. Oui, là, là, oui. Oh. 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 Oh, mon corps. Oui. Oh, oui. Oui. Oh, oui. 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 Oh. 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 Oui. Oui. Oh, oui. Oh mon Dieu. Oh, oh oui.
Donnez-moi la même chose qu'elle.
Et il fallait attendre cette réplique. C'est chaud. Vous avez remarqué, dans le restaurant, on n'entend plus de bruit.
Ça laisse sans bruit.
Alors, dites-nous tout, Guillaume Sidom, dites-nous tout, nous sommes fébriles.
Je vais tout vous dire, vous êtes impatients pour évidemment cette scène culte, pour le cultissime Quand Harry rencontre Sally. Film signé Rob Reiner, sorti sur vos écrans 1989 sur un scénario de Nora Ephron avec Billy Crystal, Meg Ryan, Carrie Fisher, musique signée Mark Sheman et Harry Connick Jr., que vous entendrez à la fin de ma chronique. Un film culte, une comédie romantique phare des années 80 et du début des années 90. Une comédie qui montre à l'écran les errances sentimentales et amicales de Harry et de Sally, impertinent, ouvertement sexuel donc, vous l'avez remarqué, sans vulgarité. Le film est surtout connu pour ses répliques bien ficelées, pour cette scène d'extase et d'orgasme de Meg Ryan dans un dîner new-yorkais face à un Billy Crystal embarrassé par cette jouissance impromptue, improvisée et bruyante. Vous l'avez reconnu et entendu dans l'extrait qui a ouvert ma chronique, je vais y revenir plus tard. Campé sur des personnages touchants et attachants, par ailleurs très inspiré de la vie du réalisateur Rob Reiner et des histoires personnelles de la scénariste, le film va rencontrer un succès considérable et va lancer la carrière de Meg Ryan, qui devient alors la nouvelle coqueluche d'Hollywood, tandis que tous les journaux et les magazines s'interrogent. Les hommes peuvent-ils être amis avec les femmes sans arrière-pensée d'ordre sexuel, et qu'en est-il de l'orgasme féminin ? Ça fait les gros titres et la matière des pages psychologie des magazines. Le pitch. À la fin des années 60, Harry et Sally viennent donc de terminer chacun de leur côté leur études. Harry profite de la voiture de Sally pour retourner sur la côte est, et en chemin, eh bien, il va tenter de la séduire, mais elle le repousse, et 5 ans plus tard, ils se croisent par hasard dans un avion, chacun a une liaison, heureuse en apparence. 5 nouvelles années passent, Sally est seule à présent, Harry, lui, vient de divorcer, ils se rencontrent à nouveau, se rapprochent, et décide de s'en tenir à une chaleureuse mais prudente amitié. Pourtant, un soir, alors que Sally est au bord de la crise de nerfs, tout bascule. Et lorsque l'amitié commence à se muer en amour, tous deux refusent de se l'avouer. Amour, amitié, 10 ans de valse hésitation entre la craquante Sally et le marrant Harry.
Allez, vous nous les avez promises, ces anecdotes, Guillaume, sur ce film qui est devenu culte.
Et pour écrire le personnage de Harry, la scénariste Nora Ephron s'est beaucoup inspirée du réalisateur Rob Reiner. Comme Harry dans le film, Reiner est névrosé, cynique et hypochondriaque, ayant peur d'aimer de nouveau, mais avec un grand cœur. Et par ailleurs, l'acteur qui joue Harry, Billy Crystal, est un grand ami du cinéaste, qui trouve alors en lui un parfait alter ego pour rendre compte à l'écran sa névrose affective. Pour Sally, eh bien, la scénariste s'est fondée sur sa propre personnalité, à savoir optimiste, enjouée, aimant toutefois garder le contrôle. Et les segments de couples mariés qui racontent comment ils se sont rencontrés, qui apparaissent dans le film, sont des histoires vraies. que le réalisateur Rob Reiner a rassemblé pendant la préparation du film et que les acteurs ont ensuite répété devant la caméra. Autre anecdote savoureuse, au départ, Rob Reiner veut que Suzanne Day joue Sally lorsqu'elle refuse le rôle. Eh bien, ils veulent proposer à Elizabeth Perkins et Elizabeth McGovern, et c'est alors que Meg Ryan commence à se montrer très intéressée. Elle est finalement choisie pour interpréter Sally. Quant au personnage de Harry, il est d'abord offert à Tom Hanks, qu'il refuse car il trouve le film trop léger, ainsi qu'à un certain Michael Keaton avant que Billy Crystal ne l'obtienne. La scène la plus culte du film est évidemment celle où Sally et Harry sont attablés chez Katz Delicatessen pour déjeuner. Sally prétend donc que les hommes ne peuvent pas faire la différence entre un véritable orgasme et un orgasme simulé. Pour le prouver à Harry, elle va donc simuler un orgasme en plein milieu du restaurant, puis Sally reprend le cours de son repas le plus naturellement du monde et une dame assez âgée, installée un peu plus loin, dit à la serveuse « Donnez-moi la même chose qu'elle ». Vous l'avez entendu tout à l'heure, cette dame, c'est Estelle Reiner, la propre mère du réalisateur, et c'est Meg Ryan qui, d'après Nora Ephron, propose alors que Sally simule cet orgasme et qui suggère de le faire dans un restaurant. C'est donc Billy Crystal qui, quant à lui, a l'idée de la réplique finale. Les habitudes alimentaires fantasques de Sally sont intégrées au film après que le réalisateur voit la scénariste Nora Ephron commander de la nourriture de la même manière que Sally dans le film. D'ailleurs, des années après sa sortie, Nora Ephron commande quelque chose de très précis dans un restaurant et l'hôtesse lui demande alors « Avez-vous déjà vu le film quand Harry rencontre Sally ?» quand la réalité rejoint la fiction. Enfin, la bande originale du film est constituée de standards de jazz interprétés par Harry Connick Jr. sur les arrangements musicaux de Mark Shaiman. Harry Connick Jr. N'est alors âgé que de 20 ans et c'est la chanson du film, hein, It Had To Be You, qui le révèle au grand public et qui va lancer véritablement sa carrière pour sa performance. Il remporte le Grammy Award de la meilleure interprétation masculine de jazz. Voici pour les histoires dans l'histoire d'une fiction devenu au fil des ans un film culte. En hommage à Rob Reiner et sa femme mort brutalement et tragiquement à 78 et 68 ans, ce dimanche 14 décembre dans la Cité des Anges. À retrouver dès à présent sur l'application France.tv jusqu'au 1er mars 2026 et en Blu-ray et DVD chez Fox Vidéo. Et d'ici là, ouvrez l'œil et le bon, et surtout, allez au cinéma.
Found the somebody who could make me be true, could make me be blue, or even be glad just to be sad thinking of you. Some others I've seen might never be mean, might never be cross or try to be boss, but they wouldn't do. For nobody else gave me a thrill. With all your faults, I love you still. It had to be you, wonderful you. It had to be you. Big cross, tried to be boss, they wouldn't do. For nobody else.
you still. Baby, it had to be you. Wonderful you. Had to be you.
On l'aura écouté jusqu'au bout. It had to be you, Harry Connick Jr., comme vous l'avez présenté juste avant, Guillaume Sidom, en vous parlant de Quand Harry rencontre Sally, le film de Rob Reiner. On voulait dire, rajouter quelques mots sur Rob Reiner. Vous l'avez dit, Guillaume partit tragiquement. C'est le moins qu'on puisse dire, puisqu'il a été poignardé, ainsi que sa femme Michelle Singer, qui était aussi productrice.
Poignardé par leur fils.
Il a été arrêté.
C'est une enquête, l'enquête est en cours.
Il était drogué.
Apparemment, effectivement, la police angelinoise, le LAPD, l'aurait arrêté. Voilà. Enfin, revenons à la carrière de Rob Reiner, qui était tout à la fois acteur, réalisateur et producteur aussi. Hein. Et c'est en tant qu'acteur qu'il s'est fait connaître dans une série qui passait dans les années 70, qui s'appelait, dont le titre était, pardon, All in the Family, jouait le rôle de Michael Stivic. Et il est devenu très célèbre grâce à ça. Et c'est en 84 qu'il passe derrière la caméra avec Spinal Tap, un premier film qui est plutôt audacieux. Vous savez que c'est un documentaire, mais un faux. Mais les gens savaient pas que c'était un faux documentaire, puisque dans ce film, il parlait d'un groupe de métal dont le nom est Spinal Tap. Et ce groupe fictif d'heavy metal, il l'a suivi en tournée, il le voit, et longtemps, les spectateurs ont cru que le groupe existait, que le documentaire était bel et bien réel, et alors que non, pas du tout. Ce n'était que des interprètes, et tout avait été inventé, et le scénario était entre autres signé par Rob Reiner, mais il était aidé aussi par d'autres comme Christopher Guest et Michael McKean, parce qu'il fallait écrire la musique aussi.
Ben oui. Il fallait que les acteurs sachent jouer des instruments, hein. Il fallait trouver des musiques aussi.
Et il fallait trouver des musiques. Mais en 84, il fait ça, et alors, bon, il est, à partir de là, il a construit, il a bâti une filmographie passionnante, et il a été perçu comme l'un des plus chaleureux des représentants du cinéma populaire américain. Il était discret aussi, mais fort malgré tout. Alors, on a parlé de Spinal Tap, mais il a essayé tous les genres. Alors, Guillaume nous a parlé de la comédie romantique avec Quand Harry rencontre Sally, succès phénoménal. Mais avant, il avait eu Stand By Me, qui était une adaptation d'une nouvelle de Stephen King, un film qui raconte l'histoire de quatre garçons d'une douzaine d'années dans l'Oregon et qui partent à la recherche du corps d'un enfant de leur âge qui s'appelle Ray Browner et qui est disparu 3 jours avant dans l'espoir de passer dans les journaux grâce à leur découverte. Voilà, on les suit. Et notez qu'au générique de ce film, il y avait un acteur formidable qui a vu sa carrière s'effondrer. Et pour cause, puisqu'il est décédé trop tôt, c'est River Phoenix.
River Phoenix,
ouais, et qui serait plus âgé que lui, je crois. Hein, maintenant, toujours est-il qu'il y a quand même Richard Dreyfuss aussi.
Oui, excellent.
Qui interprète un des garçons adultes. Hein, il est pas un des enfants. Hein, c'est pas les Goonies. c'est pas pareil. Mais il y a eu Stand By Me. Puis il y a eu Princess Bride. Alors Princess Bride, c'est assez extraordinaire. C'est une espèce de conte de fées. Alors le principe est particulier parce que l'histoire commence dans la chambre d'un enfant qui se trouve être malade et sa mère ne va pas l'envoyer à l'école. Et comme il va pas à l'école, il faut quelqu'un pour le garder. Et mince, qui va le garder? Grand-père. Et il a pas envie d'être gardé par son grand-père. D'autant que grand-père arrive avec un livre pour lui raconter une histoire.
Quelle horreur, un livre?
Un livre, et il va lui lire une histoire. Oh. Et l'histoire qu'il va lui lire, c'est l'histoire du Princess Bride, du fiancé de la princesse. C'est assez extraordinaire. Là aussi, on découvre quelques acteurs formidables dans ce film, dont Robin Wright, qui a fait ses débuts sur le grand écran grâce à ce film, puisqu'elle était dans Santa Barbara à l'époque. Barbara, oui. Puisque le film date du début des années 80. Hein. Non, c'est... Oui, c'est ça. Non, je dis le début, c'est la fin. Oui. 87. Hein. 87. Donc, elle était en plein dans Santa Barbara. Et il y avait pas qu'elle aussi au générique de ce film. Il y avait Mandy Patinkin, qu'on a vu après dans d'autres séries et au cinéma aussi. Et puis, il y a André le Géant. André le Géant, c'était un catcheur qui était très célèbre à l'époque, puisque le catch est célèbre aux États-Unis et il avait la particularité d'être un géant. Donc, voilà. Et c'est pour ça qu'il s'appelait, d'où son surnom.
Le Géant Vert, mais c'était déjà pris, vous pouvez pas.
Et alors, il est là-dessus et on va suivre.
Il y a Peter Falk.
Et Peter Falk, alors Peter Falk.
Agas Colombo, pour ceux qui...
Et Peter Falk, c'est le grand-père. Donc, on le voit peu. On entend sa voix de temps en temps. On voit peu, comme on voit peu l'enfant aussi, puisque c'est l'histoire. Le conte qu'on voit à l'écran. Notez aussi qu'il y a une apparition de Billy Crystal aussi dans le film. Donc il y a plein de personnages comme ça. Il faut aller voir ce film. Vous découvrirez des animaux extraordinaires et puis Inigo Montoya qui est irrésistible, incarné donc je le disais par Mandy Patinkin. Passons vite sur Misery aussi. Une autre adaptation.
C'est passé récemment à la télévision. Oui,
une autre adaptation de Stephen King.
C'est passé lundi.
C'est l'histoire d'un auteur de roman à l'eau de rose qui décide de faire mourir son personnage principal et donc d'arrêter ainsi sa série, mais il se fait kidnapper par
une fan de la série
et qui ne le relâchera que si il ressuscite le personnage.
Avec James Caan.
James Caan et Kathy Bates. Et qui a obtenu l'Oscar pour ce rôle. Ouais. Et puis, qu'est-ce qu'on verra aussi? Le film de procès, puisqu'on balaye les genres, le film de procès avec des hommes d'honneur, Tom Cruise, Demi Moore, Jack Nicholson.
Ah oui, beau casting.
Très beau casting, il y avait de quoi faire. Et puis, on le disait pour Meg Ryan, c'est grâce à lui que Meg Ryan est devenu la vedette qu'on a connue à cette époque-là, qu'on ne voit plus maintenant à l'écran. Et puis, Nicholson et Kathy Bates ont été magnifiés par lui, Kathy Bates en particulier, je le disais, puisqu'elle a obtenu un Oscar pour son rôle dans Misery. Et puis bon, après les années 90, il a un déclin. Et puis il revenait. Le film venait juste de ressortir. Il avait fait Spinal Tap 2. Quelle drôle de coïncidence. Ça convient pas vraiment, mais il commence sa carrière de cinéaste avec Spinal Tap il a fini avec Spinal Tap 2. Ouais. Alors, on aura l'occasion probablement de le découvrir. Alors, pour lui rendre encore un hommage, on écoute Willie DeVille, aidé par Mark Knopfler, qui chante The Storybook Love, la chanson de Princess Bride, qu'il ne faut manquer sous aucun prétexte, à voir avec tous les enfants, même ceux du voisin.
Come, my love, I'll tell you a tale. Boy and girl and their love story, and how he loved her oh so much, and all the charms she did possess. Now this did happen once upon a time, when things were not so complex, and how he worshipped the ground she walked, and when he looked in her eyes, he became obsessed. My love is like a storybook story, but it's as real as the feelings I feel. My love is like a storybook story, but it's as real as the feelings I feel. It's as real as the feelings I feel. This love was stronger than the power so dark a prince could have within his keeping. His spells to weave and steal a heart within her breast, but only sleeping. My love is like a storybook story, but it's as real as the feelings I feel.
Ça y est, vous êtes installé confortablement à côté de la cheminée et on vous raconte l'histoire. En plus, c'est Willy Deville qui le fait. Magnifique, non ? Mais l'actualité cinématographique reprend ses droits, l'ouvreuse et Laurent Martin trépignent. Alors Laurent.
À l'affiche cette semaine, L'Agent Secret, prix de la mise en scène à Cannes. C'est le nouveau film de Kleber Mendoza Filho avec l'excellent Wagner Moura et Gabriel Leone. Nous sommes au Brésil en 1977. Marcello, un homme d'une quarantaine d'années fuyant un passé trouble, arrive dans la ville de Recife où le carnaval bat son plein et il vient retrouver son jeune fils et espère y construire une nouvelle vie. C'est sans compter sur les menaces de mort qui rôdent et planent au-dessus de sa tête. Le film n'obéit pas à la logique d'une enquête et il avance par à-coups, du passé dans le présent, du document dans la fiction, du cinéma dans la mémoire. Mendoza transforme sa ville en labyrinthe paranoïaque, des stations-service désertes, des immeubles en ruine, des salles de projection étouffées par la poussière. L'Agent Secret est à la fois un thriller, un carnet de rêves et une déclaration d'amour au 7e art. Dès le plan d'ouverture, il y a une coccinelle jaune comme ça, puis un cadavre sous un carton, deux flics blasés, on pense à De Palma ou même à San Peckinpah, on croit tenir un polar moite et puis le film s'échappe comme ça vers une fresque hantée où le suspense se dissout dans la mélancolie. Le projet de Mendoza est clair, hein, tisser la trame fragile d'un pays entre la trace et l'amnésie. Il peut compter sur l'excellent Wagner Moura qui a d'ailleurs eu le prix du meilleur acteur à Cannes, qui joue un héros fatigué, rongé par le doute. Sa présence suffit à électriser chaque silence. Et puis face à lui il y a des femmes, il y a Flavia qui est l'archiviste du présent, on pourrait dire. Il y a Donia Sabatagna qui est la militante du passé qui préserve comme ça un feu fragile contre l'oubli. Et la mise en scène donc mêle documentaire et rêverie avec des scènes de carnaval qui explosent de couleurs avant de virer à la transe funèbre. Mendoza assume sa démesure comme les mémoires d'un pays qui refuse de se tenir tranquille. On croise même l'affiche dedans de la mer comme ça au détour d'une scène, on entend la voix de Caetano Veloso au générique. Voilà, c'est tout un Brésil d'images et de musique qui se dresse. C'est vrai que le Brésil, on ne connaît pas trop finalement, on le voit rarement au cinéma, et donc là c'est vraiment l'occasion. L'Agent Secret fonctionne au fond comme un voyage intérieur où les souvenirs deviennent politiques, et s'il convoque le drame, la satire et le pur plaisir de cinéma, c'est pour rappeler qu'au Brésil, la subversion passe aussi par le spectacle. C'est son œuvre la plus virulente et puis aussi la plus intime. Né en 1968, le réalisateur encapsule l'année de son éveil sensoriel et interroge ce que l'histoire a fait de cette enfance. Alors, ce mélange de dureté et de douceur compose donc une ode à la révolte par le souvenir et par les récits qui refuse de mourir. Mendoza ne fait pas qu'évoquer la dictature, il montre aussi ses ombres qui persistent dans le présent sous d'autres visages. Donc vous l'aurez compris, L'Agent Secret est vraiment une balade sensorielle comme ça dans la mémoire d'un pays, une méditation sur ce que le cinéma peut sauver du naufrage. Petite revue de presse sur ce film. Intelligent, foisonnant, captivant, digressif, drôle, nostalgique, politique, L'Agent Secret est un film total qui joue sur les codes et les genres du cinéma selon Bande à Part. Kleber Mendoza Filho signe un thriller politique, poétique et bouleversant selon France Info Culture. C'était difficile de trouver des critiques négatives, il y en a vraiment un peu. La Croix a bien aimé aussi, une œuvre magistrale à la fois solaire et sombre, appelée à devenir un classique. Petit bémol pour Criticat.com. Si le film s'embarrasse d'éléments disparates plus ou moins superflus, il tient malgré tout sa ligne de petite fresque politique et mélancolique. À l'affiche aussi cette semaine, on revient en France après le Brésil. Ça sera L'âme idéale, le film d'Alice Vial avec Magali Lépine-Blondeau et l'inévitable Jonathan Cohen qu'on voit beaucoup au cinéma. C'est l'histoire d'Elsa, 40 ans, célibataire, qui a renoncé aux histoires d'amour. Peut-être qu'elle n'a pas encore rencontré Guillaume. Un don un peu spécial, la garde à distance des autres, car ce don, elle peut voir et parler avec les morts. Et pourtant, un soir, elle rencontre Oscar, un homme drôle et charmant comme moi, qui lui fait espérer à nouveau que tout est possible. Mais au moment où elle commence enfin à tomber amoureuse, Elsa réalise que leur histoire n'est pas aussi réelle que ce qu'elle pensait. 7 ans après son César du court-métrage pour les Bigorneaux, Alice Vial passe au format long en ambitionnant de faire rimer romantisme et fantastique.
À noter la remarquable interprétation de Magali Lépine-Blondeau.
Oui, c'est vrai, l'actrice est vraiment très bonne, je ne la connaissais pas, mais elle est vraiment à découvrir. critique. Première, pas trop aimé. Il y a du ghost dans cette âme idéale où l'on a plaisir à voir Jonathan Cohen dans un registre plus tendre qu'à l'accoutumé, ça c'est vrai, et à retrouver Magali Lépine Blondeau, l'héroïne de Simple comme Sylvain. Mais dans sa manière d'embrasser la question du passage à l'autre monde, le film navigue précisément trop, lui aussi, entre deux eaux. Manque de fluidité dans ses rebondissements et la gestion des seconds rôles pas assez creusée. Dommage, donc, selon Première. Critique positive pour Abus de Ciné, si l'âme idéale est autant une réussite, au-delà de ses qualités scénaristiques, c'est en grande partie grâce à l'alchimie saisissante entre ces deux comédiens. La Croix bien aimée, poétique, romantique et vibrant. À l'affiche aussi cette semaine, on peut voir Un été chez grand-père de Hou Hsiao-hsien à l'American Cosmographe. On peut voir L'amour qu'il nous reste d'Ilmour Palmerson à l'ABC Toulouse. C'est la trajectoire intime d'une famille. Le blockbuster de la semaine, ce sera bien sûr Avatar de Feu et de Cendre. Vous n'y échapperez pas, le nouveau film de James Cameron avec Zoé Saldana. Je suis prêt à parier qu'il y aura un quatrième, voire même un cinquième épisode. On peut voir aussi Rebuilding.
En 2031, ah, le voilà. Cinquième.
D'accord, ben oui. Tant que la machine au pognon est là, pourquoi pas.
Tant c'est prévu. Rapporte, c'est prévu.
On n'est pas sérieux, si vous n'y allez pas, il n'en referait pas. On peut voir aussi Rebuilding de Max Walker Silverman. C'est l'histoire de Dusty qui voit son ranch dévasté par les flammes. Bien sûr, il va falloir trouver la volonté de recommencer sa vie. Un film qu'on peut voir au Grand Palais à Cahors. Histoire de la Bonne Vallée, un documentaire de José-Louis Guérin, qu'on peut voir à l'American Cosmographe. On peut voir aussi Le Champ des Forêts, un documentaire de Vincent Munier, au cœur de la forêt des Vosges. On peut voir ça au Régent à Saint-Gaudens. Et pour les plus petits, Heidi, le lynx des montagnes. Hein, Heidi va trouver un bébé lynx.
Ah ben, dis donc.
C'est rare, ça. Ouais,
c'est rare.
Un film d'animation des 3 ans de Tobias Schwartz, Aïza Roca Beridi. Et on peut voir aussi des 6 ans, La Fabrique des Monstres de Steve Hudson et Toby Jenkel.
1, 2, 1, 2, 3. Today I walk down the street I used to wander. Yeah, I shook my hand and made myself a bet. But there was all these things that I don't think I remember. Hey, how lucky can one man get?
L'Amérique des petits, l'Amérique des laissés pour compte, c'est dans Rebuilding, le film de Max Walker Silverman, et l'histoire de Dusty qui a perdu, son gagne-pain, son ranch, c'est son bétail, tout, il a plus rien. Et comment va-t-il se sortir de tout ça? Déjà avec sa fille, son ex-femme, et puis tous les gens qu'il va rencontrer autour de lui, qui sont dans une situation guère enviable par rapport à la sienne. Ne ratez pas donc ce beau Rebuilding de Max Walker Silverman et écoutez bien extrait de sa BO. Kurt Weill, ça s'appelle How Lucky.
Today I walk down the street I used to wander. Yeah, scratch my head and lit my cigarette. Well, there was all these things that I don't think I remembered. Hey, how lucky can one man get?
Andrea Di Stefano dans N'oubliez pas l'ouvreuse sur Radio Présence.
Today I walked down the street I used to wander.
Je suis Andrea Di Stefano dans N'oubliez pas l'ouvreuse sur Radio Présence.
Votre ami, Guillaume Sidom, a fait des siennes. Il voulait à tout prix parler à nouveau avec vous.
Avec ça.
Sur cette antenne.
Avec ce bel accent italien et un français parfait.
Très belle voix, oui.
Et on retrouve maintenant notre homme de loi des séries qui a aiguisé les couteaux. Ça va saigner.
Ça va trancher.
Ça va trancher. Parce que justement, il nous parle des flops de l'année 2025.
Je déclare l'audience ouverte.
Cher Louis-Marie, je vous ai promis de commencer 2026 en étant joyeux, donc je ferai les tops en 2026, mais je vais finir 2025 en râlant, parce que franchement, 2025, c'était une année pourrie, à tout niveau. Bon, je pense que 2026 sera tout aussi pourri, voire pire, mais quand même, je vais commencer avec une touche d'espoir. Donc là, on va s'enfoncer dans le désespoir de fin d'année et vous parler des flops 2025. Alors, j'élargis films, séries télé du monde geek, un peu en général, comme ça, j'allume un peu tout le monde. Vous savez que ça me fait du bien, ça me détend. C'est mon traitement à moi. Alors, on va commencer le flop 5, Jurassic World, le nouveau film. On en attendait beaucoup, réalisateurs, notamment du premier Godzilla, le reboot. On allait voir du gigantisme, on allait voir des idées formidables. Alors, moi, je me suis un peu inquiété dès le départ quand j'ai su qu'ils avaient fait ça en 2 ans, qu'on mettait Scarlett Johansson comme mercenaire badass. C'est loupé à tout niveau. Le scénario est nul. Les dinosaures mutés sont insignifiants, les acteurs sont pourris, les motivations de chacun, enfin moi j'avais envie que tout le monde se fasse bouffer tellement qu'il me saoulait, et vraiment on essaye, en fait on a oublié l'intérêt du Jurassic World de nous faire un monde avec des dinosaures de partout, on revient sur des dinosaures sur une île et des gens qui s'échouent et qui doivent en sortir. C'était nul, c'était pourri, c'était oubliable. Ensuite, je vais pas rester longtemps là-dessus, mais en top 4 c'est tous les films de super-héros et les séries de super-héros, que ça soit Marvel, DC, y en a aucun qui a été bon, clairement. On est à la fin du genre super-héroïque. Enfin, il était temps que ça se termine. Les Fantastic Four, franchement, c'était pas excellent. Puis Pedro Pascal, je l'ai beaucoup aimé, mais là, j'en peux plus de le voir dans tous les films. Le Superman, c'était mauvais. Très, très loin des Superman de Snyder. Voilà, il y a pas grand-chose à sauver sur cette année super-héroïque. Ils vont tenter encore des nouveaux Avengers pour tenter de ressortir tout ça. Moi, je pense qu'il faut qu'on enterre le genre super-héroïque, qu'on y revienne dans 10 ou 20 ans. Là, on a dit tout ce qu'il y avait à dire dessus. C'est dommage, il y avait encore des comics super à adapter, mais je pense que le fait qu'on aime faire des œuvres aseptisées, bah, en fait, ça ne marche plus. Encore une fois, normalement, les comics, c'est censé traiter de problèmes sociétaux et de façon intelligente. On n'y arrive plus, on n'a plus de talent. Enterrez-moi tout ça, ça ne sert plus à rien. Ensuite, top 3, The Witcher. Hein, ils ont fait partie Henry Cavill, ils nous ont promis quelque chose de formidable. Alors, The Witcher, c'est la série qui s'est dégradée d'année en année. Une première saison vraiment qui était intéressante, avec des défauts, mais intéressante. Et à partir de la deuxième, ça s'est dégradé à tel point qu'Henry Cavill en est parti, parce qu'il ne respectait plus les livres. Ben oui, les scénaristes de The Witcher se sont dit, on est trop forts, nous. Et en fait, les livres sont mauvais, donc on va faire nos propres scénarios. Ça n'a ni queue ni tête, ça n'a pas d'intérêt. Le nouvel acteur qui a remplacé Henry Cavill, il fait ce qu'il peut, mais il n'est pas au niveau. Bref, c'est une série oubliable que tout le monde a déjà oubliée. Et c'est tant mieux. C'est dommage, Netflix tenait au départ son potentiel Game of Thrones. Ben en fait, non. C'est une série qui va être dans les limbes et qui n'atteindra jamais les meilleures séries d'Heroic Fantasy qui étaient Hercule et Xena. Je persiste et signe. On n'a pas fait mieux depuis. Ensuite, Squid Game, saison 3. On s'est posé la question, est-ce qu'il était intéressant après la saison 1 de faire d'autres saisons de Squid Game? La réponse est non. C'est pas bon. C'est pas bon. Ça raconte pas grand-chose. On voit l'envie d'en faire... Je vais spoiler la fin des franchises avec attention, il y a des Squid Game partout dans le monde, nous pourrons faire des Squid Game un peu partout. Voilà, ils savent pas conclure, ils savent pas comment faire. En fait, ça méritait non pas une saison 2, une saison 3, mais un téléfilm de conclusion. C'est pas bon, ça raconte rien. Et en fait, on est presque sur du voyeurisme crimes, d'atrocités. Finalement, en fait, on devient ce qui est dénoncé. Squid Game est devenu, en fait, clairement ce qu'elle dénonçait, c'est-à-dire l'industrialisation et le capitalisme fou. C'est dommage, la saison a été formidable. Oubliez-le, allez plutôt voir Alice in Borderland ou The Last Samurai Standing, c'était bien, bien, bien meilleur. Et on va terminer par le flop ultime, quelque chose qui est un accident industriel, et vous le savez, c'est Kaamelott 2, partie 1, film très mauvais, qui ne raconte rien, extrêmement mal joué, qui en fait est à la gloire d'Alexandre Astier, sa descendance, et en fait il veut juste nous dire que lui il est plus intelligent que nous, que sa famille est plus talentueuse que tout le monde et donc qu'il a pas besoin de scénario et qu'il va nous faire un film qu'il a été obligé de couper en deux parties parce qu'il avait tellement de choses à raconter. Je le répète, ça ne raconte rien, ça n'avance en rien, c'est mal écrit, c'est mal joué, c'est mal tourné, ça détruit en plus tout l'héritage de Kaamelott. J'étais très 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 fan de Kaamelott, vous le savez. C'est à la fois irrespectueux envers les fans, c'est très 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 prétentieux, et pourtant Alexandre Astier, il sait être prétentieux, mais même là, il bat ses records. Véritablement, c'était une purge, et c'est le principal flop que j'aurai sur cette année, parce que, en fait, Kaamelott, c'était le fait que le monde geek était cool, et là, en fait, Kaamelott, c'est le fait que le monde geek, ça peut être très prétentieux. Voilà, sur cette année 2025, elle était pourrie, 2026 sera pire, et 2027 sera encore pire. Encore une fois, nous arrivons au bout du manque de talent de nos scénaristes. J'espère qu'enfin, on va avoir des bonnes séries et des bons films dans l'avenir, parce que ça manque. Sinon, passez quand même très bonne fête, un joyeux Noël à tout le monde. Louis-Marie, big bisous, et à très vite.
Ah. Il finit heureux et content.
Big bisous.
Big bisous. Ah,
rien qu'à vous. C'est un hommage à Carlos, peut-être.
Oui, bah oui, c'est ça. On sait qu'il était un fan de Carlos.
Pas le terroriste. Enfin, qui était aussi le terroriste de la chanson. Mais, c'est autre chose.
Mais pas. Il était moins dangereux.
Ouais, exactement. Oui.
Moins dangereux.
Plus sympa.
Oui, aussi plus sympa. Vous savez ce qu'il fallait rater, et n'essayez pas de rattraper votre retard.
Ça a giclé sur les murs, là. Il y en a partout.
Ah oui, il y en a partout.
Votre temps est précieux.
Oui,
on dirait l'autre.
Eh bien, on le retrouve l'année prochaine pour les tops
top
de 2025.
On commencera positivement comme ça.
Ce soir?
Non, je peux pas, j'ai un rendez-vous.
Avec qui?
Avec la patronne de l'hôtel. Je peux pas lui poser un lapin, ça serait dur, elle a tellement insisté. Et puis en plus, je sens que ce soir, je vais conclure.
Tu m'aides pas là?
Non, pas là, non.
Tu sais que tu me sidères, Jean-Claude. Ça fait deux jours que t'es là, t'es déjà sur un coup.
Écoute, Bernard, je crois que toi et moi, on a un peu le même problème. C'est-à-dire qu'on peut pas vraiment tout miser sur notre physique, surtout toi. Alors si je peux me permettre de te donner un conseil, c'est oublie que t'as aucune chance, vas-y, fonce. On sait jamais, sur un malentendu, ça peut marcher.
C'est devenu,
oui, ça,
c'est devenu quelque chose de courant dans la conversation.
Ah oui,
culte. N'oublie pas, n'oublie.
Et c'est n'oublie quelqu'un pas qui gagne à pas être connu aussi, c'est très répandu.
Et pour l'anecdote, les supporters, le groupe de supporters du TFC, les Indians, lors de TFC Liverpool, ils ont fait un tifo. Avec évidemment
sur un malentendu,
et du coup toute la presse internationale a parlé de cette réplique culte
et de Michel Blanc par la même occasion, puisque c'est lui, c'est Jean-Claude Duss. Alors vous savez bien sûr que c'est les Bronzés font du ski, le deuxième volet des aventures
qui est meilleur que le premier, c'est
Bronzés. Oui, effectivement, sorti en 1979, toujours réalisé par Patrice Leconte. On retrouve les mêmes. Il y a Gigi, Popeye, ils sont tous là. Et Jean-Claude, qui va conclure chaque fois.
Oui.
Il va conclure. Il va conclure. Alors, si vous voulez le voir conclure.
Faites le tour.
Vous irez au Grand
Palais. Les crêpes au sucre.
Les crêpes au sucre aussi. Ah oui, 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 on a oublié les crêpes au sucre. Les Bronzés font du ski, donc de Leconte, c'est au Grand Palais de Cahors, vendredi 19 décembre à 14h. Et plus près de nous. Ils sont cons, c'est bien d'être à Cahors, mais plus près de nous, au VO de Muret. Alors, il faudra Il faudra attendre le 31 décembre. Pourquoi ? Parce qu'il propose un splendide réveillon. Ça vous dit quelque chose ?
C'est goûtu, ça dure tour.
Exactement, c'est goûtu, ça dure tour. Et donc, un programme avec les films de la troupe du Splendide, lors d'une soirée exceptionnelle avec animation. À 18h30, le Père Noël est une ordure, précédé d'un quiz sur le film et... vous pourrez remporter le gilet tricoté par Thérèse.
Ah oui.
Ah bah oui. Le concours du pull moche de Noël. Enfilez votre meilleur pull moche de Noël et tentez de repartir avec le pull collector du film. Puis à 21h40, il y aura les bronzés. Puis à 23h30, les bronzés font du ski. Et il y aura bien sûr un buffet salé et des crêpes au sucre.
Ah bah, excellent.
Voilà. Excellent. Et effectivement, tout ça c'est au VO de Muret. Dès 19h, 18h30, le 31 décembre.
Et on vous expliquera comment on fait rentrer le crapaud dans la bouteille.
Effectivement. Il y a des moments extraordinaires. Ouais, comment ont-ils fait rentrer le crapaud dans la bouteille. Et dans 10 minutes, je nous déclare perdus. Oui. Allez, on passe à autre chose.
Allez, rebondissons.
Jerry Goldsmith, vous avez reconnu la musique de Jerry Goldsmith, The Gremlins Rag. Eh oui, c'est la musique des Gremlins. Voilà un conte de Noël comme on les aime, où il y a beaucoup de méchants qui font plein de méchanceté et plein de vilaineté.
Excellent.
Et ben alors, vous savez, vous connaissez les trois règles à respecter quand vous avez un gizmo avec vous.
Ne pas les mouiller, ne pas les nourrir après minuit. Et
ne pas les exposer au soleil.
Eh oui.
Sinon, ça les tue.
Ah, ouais.
D'ailleurs, ça va servir pour quand ils vont devenir très très méchants.
Méchant,
ouais. Ouais. Et voilà, et c'est un papa qui cherche un cadeau à faire à son fils et qui va tomber sur cet animal.
Un mogwai,
le fameux gizmo. Ouais. Et évidemment, les trois règles ne seront pas respectées et ça va saigner là-bas dans leur petite ville fictive de Kingston Falls. Ah, terrible.
Attention, le film n'est pas forcément pour le jeune public, ça peut faire peur. Attention.
Ça peut faire peur parce que les Gremlins ont une sale tête.
Sont méchants. Ouais.
C'est Joe Dante qui a réalisé le film, quand même. Hein. Bon, alors vous pourrez voir les Gremlins au Régent à Saint-Gaudens le vendredi 19 aussi, mais à 21h bien sûr, dans sa version originale. Ça c'est bien. Alors qu'est-ce qu'on a encore à vous conseiller au chapitre des reprises ? Eh bien, il y a deux Charlie Chaplin, La ruée vers l'or,
ah bah oui.
1925, un must, film muet bien sûr, on découvre Charlot dans toute
chercheur
sa splendeur,
d'or.
Chercheur d'or, et notez qu'il fera l'objet d'un ciné-goûté.
Ah, ça me plaît, ça.
Oui. À la BC à Toulouse, le lundi 29 décembre, c'est un peu avant le réveillon, à 14h15, pour fêter les 130 ans de la première séance de cinéma. Et oui, ça fera 130 ans le 29 décembre 2025. Faites le calcul.
Mais vous n'avez pas participé à cette première séance, hein ?
Non. Non, c'était la première séance des Frères Lumière.
Vous n'êtes pas si vieux que ça non plus.
Non plus. Vous êtes gentil avec moi, merci.
Oui, c'est Noël.
C'est Noël. Oui. Et à l'Utopia Tournefeuille, vous pourrez voir dimanche 21 décembre à 16h10 et puis dimanche 28 décembre à 16h15, Le Dictateur.
Ah oui ?
Bah ouais.
Oui.
Bah, Le Dictateur, oui.
Excellent.
1940, pardon, vous savez que le gouvernement nazi de l'époque a essayé de faire interdire le film, quand même.
Ah, j'imagine, oui.
Et il l'a tenu contre vents et marées, Charlie Chaplin.
Un génie. Ouais.
Magnifique film, donc. Et puis, un autre film de Noël, encore une fois, à pas mettre devant tous les yeux, ça s'appelle Watch Out. C'est, Watch Out, c'est une drôle d'histoire. C'est un gamin qui reste avec sa babysitter. Elle va partir, il est amoureux de la babysitter. Ah, oui. Ils vont passer le réveillon ensemble parce qu'elle le garde. Et ça va mal se passer parce qu'il y a des gens tout autour qui vont vouloir rentrer. C'est une abomination. Hein. C'est les Gremlins à côté, c'est des petits jeunes. Ça s'appelle Watch Out et c'est proposé à l'American Cosmograph, jeudi 18 décembre, c'est-à-dire demain, la Greenhouse Paradise Christmas Night. C'est comme ça que ça s'appelle. Vous savez qu'il y a le festival Greenhouse qui propose des films de ce genre. Et donc, vous pourrez voir ce film grâce à eux. Et dès 19h30, il y aura un loto avec des cartons, des boules numérotées, des kids. Et des lots 100% Greenhouse. Vous voyez, vous allez être gâté, c'est Noël.
Bon vieux loto à les maïs, quand même.
Et puis sinon, la Cinémathèque, vous la retrouverez à la rentrée avec la Galaxie Truffaut. Laurent.
Oui, le cinéma à la télévision.
Oui,
allez. Ça commence dès ce soir sur Arte à 20h55 avec Arctic de Joe Peña, avec l'excellent Mads Mikkelsen, histoire d'Overgaard qui essaie de survivre dans l'enfer blanc, traqué par le froid, la faim et l'épuisement. Mads Mikkelsen impressionne en Naufragé des glaces. Jeudi, France 4, 21h, ce sera Carole de Todd Haynes avec Cate Blanchett et Rooney Mara. Nous sommes à New York, en hiver 52. Sous les néons tremblotants des grands magasins et les flocons qui dansent, la ville respire l'effervescence et pourtant derrière cette façade étincelante, des vies se heurtent aux conventions d'une société étouffante où les désirs doivent rester enfouis. Adapté d'un roman de Patricia Smith, une romance déchirante et raffinée. Vendredi, France 5, 21h, on pourra revoir Peau d'âne, Jacques Demy, 1970, avec Catherine Deneuve, Jean Marais et Delphine Seyrig. Rappelez-vous, le roi bleu est perdu de chagrin, se met en tête d'épouser la princesse, sauf que la princesse, c'est sa fille. Une mise en scène, musique et interprétation de Catherine Deneuve concourt à faire de ce film un enchantement. Samedi, France 4, 21h, Le Château ambulant, d'Hayao Miyazaki, histoire de Sophie qui croise le chemin d'Oru, un magicien séduisant et charismatique. L'imaginaire débordant de Miyazaki fait mouche encore une fois. Dimanche, Arte, 21h, ce sera L'homme tranquille de 1952, John Ford. John Wayne, Maureen O'Hara, l'histoire de Sean qui renonce à sa carrière de boxeur. Il devient non-violent et décide de retourner dans son Irlande natale. Un film drôle et subtil sur la complexité des rapports amoureux. Lundi, 21h, France 5, vous reprendrez bien une louche d'Hayao Miyazaki. Ce sera Princesse Mononoke. Hein. Autant des dieux et des démons, les rares endroits que l'homme n'a pas encore saccagés, ce saligo, sont protégés par des animaux immenses qui obéissent au grand esprit de la forêt. Voilà, un hymne puissant en faveur de la paix et de la nature. Les conseils cadeaux. Notez, prenez papier crayon. Conseil Blu-ray, un coffret de 3 films d'Alexandre Dumas, Le Comte de Monte Cristo, Les Trois Mousquetaires, parties 1 et 2, avec Pierre Niney, Bastien Bouillon, et réalisation de Mathieu Delaporte. Un Blu-ray que vous retrouvez chez Pathé Vidéo pour 25 euros. Je vous conseille aussi le Blu-ray de Dune 1 et 2 de Denis Villeneuve avec Timothée Chalamet. On retrouve ça chez Warner pour 19,99€. Le conseil livre, ce sera L'étoffe des légendes, quand le cinéma devient culte, une exploration des films cultes et de leur impact sur la culture populaire, de Fabien Bardot, aux éditions Plume Libre, pour 16€. Et un dernier conseil de lecture, là c'est pour moi c'est le plus beau, les archives des films Walt Disney, les films d'animation 1921-1968, vraiment un très, très bel ouvrage, hein, de Daniel Cottenschult, que vous retrouvez aux éditions de ta chaîne pour 25€, et je vous passe la balle, Guillaume.
Oui, vous parliez de Carole, Laurent, qui passe demain soir à la télé, et l'excellent film et bon conseil de Blu-ray, ce sera la réédition remarquable, collector et somptueuse du film de Todd Haynes, avec 3 heures de bonus, un livret mêlant interview inédite et texte érudit de Blu-ray, dont un livre et une affiche à retrouver aux éditions Bubble Pop pour 49,95€. Excellente idée cadeau pour Noël.
S'il vous plaît, monsieur, le train pour Saint-Maurice, c'est où? C'est pas affiché, là.
Ça m'étonne pas si on est à Saint-Lazare.
Ah, écoutez, je suis pas fou sur mon billet, tenez. Il y a écrit Saint-Lazare. C'est mes yeux ou quoi?
Je crois que ça doit être vos yeux. Ah ouais, c'est mes yeux, ouais.
On s'en lasse pas. Thank you. La très belle bande-son signée Olivier Margueri pour le film d'Alice... je ne veux pas écorcher son nom, Alice Vial, l'âme idéale. Et en fait, c'est aussi la musique du personnage principal, puisqu'il est musicien, Oscar, et c'est sa musique à lui qu'on entend dans le film. La lune est blonde, c'est le titre du morceau. Messieurs, quels sont vos coups de cœur de Noël?
Les coups de cœur, ce sera La Chance Secret, Rebuilding, Le Chant des Forêts, et j'amènerai voir Guillaume, Heidi et Le Lynx des Montagnes.
Le Chant des Forêts, l'âme idéale, L'Agent Secret, Quand Harry rencontre Sally sur France.tv et Carole demain soir 21h05 sur France 4.
L'âme idéale pour moi, L'Agent Secret aussi pour moi, puis L'amour qu'il nous reste de Lynur Palmason, et puis trois films qu'il faut aller voir, il faut aller voir, leur donner leur chance, parce qu'à l'ombre de tous ces films qui sortent et qui ameutent le public, il faut aller voir Louise de Nicolas Ketel, il faut aller voir La Petite Cuisine de Mehdi d'Amini Djana, et il faut aller voir Animal Totem de Benoît Delépine. Et il y a ça aussi dans l'âme idéale. Oui, il n'y a que du bon. Merci, messieurs.
Merci. Merci, bonne fête à tous. À l'année prochaine.
Oui, on se retrouve l'année prochaine. Vous avez été remarquables, messieurs, en 2025. Ce sera pareil en 2026. Merci à Jean-Baptiste d'être resté avec nous. Allez, salut et à l'année prochaine.
Présence.
Vous avez été nombreux l'an dernier à soutenir l'Église catholique dans ses missions. À vous tous qui avez donné, merci. Afin que l'Église reste présente pour tous,